Il est le président du tout nouveau Convivium Slow Food à Monaco. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Roux. Alors, ça y est, depuis cet hiver, Slow Food est officiellement présent à Monaco.
Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Depuis 1999, on s'appelait Convivium Sud-Est Monaco, mais là, maintenant, on est international. Donc, le gouvernement a donné son accord. On a eu la chance aussi que Alain Ducasse a été en passé monégasque, ça a facilité un peu les choses. Et donc, nous sommes au journal officiel depuis octobre, donc on est là. Et notre but, c'était bien ce qu'on avait dit, le beau, le bon, le propre. Tous les chefs de l'époque, que ce soit Alain Ducasse ou les autres, étaient déjà slow food. Mais ce n'est pas ce qui nous intéressait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens prennent leur bâton de pèlerin, commencent à faire changer les mentalités de monsieur et madame tout le monde. Les chefs, on le sait, les vignerons, on les a, c'est des amis. Et je tenais à remercier son Excellence Bernard Fautrier qui a parlé de ça. C'est qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille dans les écoles. Il y a eu la démission de la famille depuis quelques années. Il faut qu'on reprenne un peu les rênes et qu'on apprenne un petit peu ce qu'est la sécurité alimentaire, tout le problème de slow food.
Et justement, dans quelques jours, vous serez présent pour donner un cours à des jeunes.
Oui, non, là, on s'est mis d'accord un peu avec l'éducation nationale et avec le lycée hôtelier de Monaco, donc c'est tous des amis, que ce soit le chef des travaux, qui m'a demandé à partir de là, pour des classes de 17 ans, parce qu'il faut avoir déjà des classes de jeunes qui s'intéressent. Je me rappelle, on avait fait des trucs à Nice sur des CM2, c'est pas la peine. CM2, il faut faire des dégustations comme la journée du goût. Là, par contre, à partir de maintenant, on va s'investir sur le lycée hôtelier de Monaco pour voir des classes et peut-être les amener dans le Piémont, voir l'université de Pollens, voir un peu ce qui se fait ailleurs.
Et pour véhiculer les valeurs de slow food.
Et voilà. Nous aussi, notre truc, c'est aussi de sauvegarder la biodiversité. Notre président international est allé sauver les derniers rennes en Suède. On est allé de partout, que ce soit animal, végétal. Là, je vous signale que là, au mois de mai, il y a Slowfish à Gênes, au niveau justement de la mer, comme déjà plusieurs années, ça vaut le coup. Gênes, c'est pas loin, ça vaut le coup d'aller voir tout ce qu'ils font aussi faux sur la défense de la mer. Et d'ailleurs, je l'ai toujours avec moi.
C'est le petit dépliant donc édité par le musée océanographique.
Et franchement, on s'est même aperçu entre professionnels qu'on ne connaissait pas tous les poissons qu'il y avait en Méditerranée et tous les noms. Et nous, on souhaiterait que nos amis espagnols arrêtent de venir dans les eaux territoriales françaises faucher le thon rouge pour le revendre aux Japonais. Parce que là, il y a un petit peu d'abus. Et il avait raison, l'ambassadeur. C'est qu'on peut faire avec du germont, avec du thon blanc. On peut faire avec autre chose. Et franchement, c'est souvent meilleur avec un peu de coquille Saint-Jacques ou de saumon. Hein. Bon, franchement, les suffit, ça aussi. Bon, et comme ça nous permet aussi de voir venir. Mais il y a d'autres poissons qui sont en voie comme ça, disparition aussi, qu'il faudra mettre la pédale douce. Voilà.
Vous parliez des Espagnols, et je reprends votre sujet, puisqu'on en discutait pendant la préparation de cette émission. Il y a un nouveau règlement émanant de la Commission européenne qui vous fait bondir. C'est donc l'autorisation d'appellation huile extra vierge pour des huiles désodorisées. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça?
Alors, on a eu le problème il y a 2 ans et demi ou 3 ans pour le vin rosé. Il voulait changer les donnes du rosé, il voulait mettre du blanc et du rouge dans du rosé. Il faut savoir que le rosé est l'élément le plus vieux du monde au niveau des vins, 2600 ans. Lorsqu'on a commencé à boire du vin, quand on l'écrasait avec du pied, donc il n'y avait ni blanc ni rouge, il y avait ce blanc cassé, c'était le début du rosé, le rosé dans le monde. Et il faut quand même que je le dise, notre ministre de tutelle de l'époque, il n'a pas été très bon. Monsieur Barnier n'a pas été très bon. Quand il dit, mais je n'ai pas vu passer des dossiers. Excuse, tu es ministre de l'Agriculture. Donc là, on a gagné, mais ce n'est pas encore gagné. Parce qu'il y a des nations qui ont beaucoup de blancs, qui n'arrivent pas à vendre, et pas des blancs de qualité. Donc ils se sont dit que c'était une bonne affaire économique. Ça, on peut le comprendre. Mais quand on est le roi des rosés, et surtout en Provence, et qu'il fallait que ça soit les vignerons de qualité qui changent l'optique, qui mettent une contre-étiquette pour dire que c'était des vins traditionnels, alors qu'on allait mettre sur les étals des grandes surfaces des vins à 1,50€ et 2€. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez du rosé, vous prenez, vous n'êtes pas initié, et vous payez des trucs à 2€, qui est un truc dégueulasse, de blanc et de rouge.
Et c'est voilà. ce qui risque d'arriver pour les huiles,
alors l'huile, nous sommes le pays ici de l'huile, que ça soit avec la Tagliasque à côté, que ça soit la niçoise, que ça soit dans les huiles des Baux de Provence, en appellation. Ils veulent nous mettre, quand les huiles sont extra vierges, ce qu'il n'y en a pas souvent, ils veulent soi-disant le désodoriser pour permettre encore à un pays... Bon, je l'attaque alors que je suis très heureux, moi, avec les Espagnols, quand je vais en Andalousie ou tout. Ils veulent remettre des huiles de moindre qualité. Il faudra se mobiliser. On a déjà envoyé à notre président international. Je vais le dire à notre ami Gaston Franco. Mais qu'est-ce que vous faites sur les bains de ce truc? Vous bougez ou quoi? Parce qu'il faut souvent se remettre en cause. C'est dommage. On a quand même gagné sur le camembert, pas sur toutes les marques. On a laissé certaines marques avec un camembert au lait cru. Ils ne voulaient pas. Parce qu'on avait signé le premier manifeste en 2001 à Bras sur les fromages au lait cru. Bon, maintenant, il y a des thermisés, il y a de tout. Mais il y a quelques maisons qui font encore quand même.
On n'en trouve pas beaucoup, mais il y en a quand on prend la peine de chercher.
Il y en a même quelques-uns, ici, je ne vais pas faire.
Au grand supermarché.
Au grand supermarché, qui, contrairement à beaucoup de choses, n'ont pas des légumes de qualité, mais ils ont une filière fromage et une filière poisson. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Moi, personnellement, dans le grand supermarché dont vous parlez, j'en ai trouvé qu'un camembert au lait cru. Mais bon, il y était, en tout cas.
Non, mais ils ont d'autres fromages au lait cru.
Oui, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure d'Alain Ducasse, qui est un fervent défenseur des valeurs de Slow Food. Il est membre de Slow Food, non ?
Ah oui, c'est mon président d'honneur. Hein. Président d'honneur depuis le début. Et maintenant, il est président fondateur. Parce que s'il n'y avait pas Ducasse, Marcel Attimon et Jean Balanga, on n'aurait pas pu rentrer en principauté. La loi a changé. Le président peut rester français s'il y a trois monégasques qui entourent. Et tout s'est bien passé comme ça.
Et donc c'est le chef Alain Ducasse qui sera en charge d'un des repas officiels de la noce du prince. Alors ça c'est pour le côté un peu people.
Le repas officiel.
Est-ce qu'il sera éthique ce repas
alors,
proposé
justement,
par Alain Ducasse?
Alors je veux dire, je pense qu'ils ont été même chercher le problème éthique aussi dans le matériel et dans le truc. Donc là, demain, ils essayent bon, de voir, parce qu'il y aurait des tables de 16 pour voir si tout pourra aller autour. Bon, voilà. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de problème.
Donc jusqu'au choix des couteaux fourchettes.
On va essayer d'organiser.
Super. Voilà. Changement durable, c'est le thème de notre radio, mais c'est le thème également de cette émission. Selon vous, Jean-Pierre Roux, pour parvenir à un changement durable, quelle serait la première des choses à mettre en œuvre?
Il faut arrêter le bruit dans les cités. Les gens commencent à venir fous. Il commence à y avoir des problèmes de stress. Il y a du bruit partout. Et puis alors que maintenant, on ne parle que du bio, mais on a toujours été bio. Maintenant, il faut savoir si c'est du bio économique ou du bio. Parce qu'il y a des gens qui vont plus loin. Il y en a qui font de la biodynamie, sûrement. Tiens, je suis très heureux que le prince a essayé de mettre quelques ruches dans Monaco. Parce que où elles ont été mises, elles sont un peu sauvegardées par l'environnement. Parce que les ruches, actuellement, dans les campagnes, il y a un gros problème. Mais le gros problème, on n'en parle pas. Personne ne parle de Monsanto. Personne ne veut essayer d'aller contre cette multinationale qui nous tue dans le monde. Qui nous tue. Le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de vie. Ça a été le début du monde, l'abeille.
Mais ça, c'est une belle action concrète pour un changement durable, un monde sans Monsanto. On est tous parfaitement d'accord là-dessus. Les quatre saisons de Vivaldi, c'était votre choix musical. Et là encore, je pense que vous avez nous en parler.
Je veux dire, premièrement, ça a été un air qui a bercé un peu ma jeunesse. Parce que puis mon père aimait ça, moi, ça m'a plu. Mais ce n'est pas simplement ça. Vous allez dire, bon, on aurait pu mettre quatre saisons. Mais c'est plein de symboles. Les quatre saisons d'Ivaldi, c'est des symboles. D'abord, on est au printemps, mais ça nous permet de dire à toutes les familles qu'il faudrait peut-être manger en saison les fruits et les légumes. On a toujours mangé en saison. Il y avait la saison de l'asperge, puis il y avait la saison du melon. Et surtout, faites-moi plaisir, même si vous aimez, arrêtez d'acheter des fruits exotiques, même bio, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on met dans des avions. Pour manger de quoi? Des mangues qui, une fois sur deux, quand on nous les livre, elles sont comme ça, elles ne mûrissent même pas quand on les met dans le papier journal.
Merci Jean-Pierre Roux. Thank you. Nous sommes toujours en direct du forum de la FNAC à Monaco pour une émission spéciale, les 6 ans de Radio Éthique, consacrée à un changement durable. Notre prochaine invitée, c'est Virginie Lelarge, elle est la directrice de projet pour l'IMED, c'est l'Institut méditerranéen d'études et de développement durable. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Alors en quelques mots, qu'est-ce que l'IMED ?
Donc l'Institut méditerranéen d'études et du développement durable, donc c'est une jeune société monégasque.
Elle a 2 ans.
Dont l'objet est d'accompagner les entreprises, les associations, les institutions de la principauté et aussi méditerranéenne dans leur stratégie d'études et de développement durable. Donc toutes les questions de responsabilité sociétale et accompagner les entreprises finalement à aller vers cette responsabilité sociétale, devenir plus responsable, devenir éthique dans leur système de management au quotidien.
Et concrètement, comment vous vous y prenez ? Vous leur donnez des outils ? Vous leur inculquez une philosophie ? Vous les aiguillez ? Comment ça se passe ?
Donc, de manière associative, en fait, j'ai accompagné presque 100 entreprises de la principauté.
Ah, quand même, déjà.
Au travers d'une charte qui avait pour objectif, de les sensibiliser à les responsabilités sociétales. Donc, une charte volontaire, toujours dans le principe que disait son Excellence tout à l'heure, le volontariat finalement permet de réussir les démarches. Et donc, l'idée était de les emmener sur des actions sociétales, donc du point de vue économique, social, environnemental, de les sensibiliser, de les faire se rencontrer aussi pour qu'elles puissent partager, échanger des success stories finalement dans leurs entreprises. Et donc, c'est un petit peu ce rôle de fédération que j'ai joué ces dernières années en principauté. Là, avec l'IMED, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce rôle de fédération, puisque des entreprises ont des problématiques concrètes, soit en termes de stratégie sociétale, elles ne savent pas forcément sur quels axes travailler de manière prioritaire. Donc, on peut les accompagner sur ce type de problématiques, donc dans les domaines économiques, sociaux, aussi environnementaux.
On parlait tout à l'heure à travers la Fondation Prince Albert II du Salon Ever, vous étiez également présente.
Tout à fait, donc l'IMED a été partenaire du comité organisateur pour le Salon Ever. Donc nous avons organisé une étude de Visitora pour essayer d'effectuer un ciblage des visiteurs qui venaient au Salon Ever. Donc ça s'inscrit aussi dans leur responsabilité sociétale, puisque l'année dernière, nous les avions accompagnés sur une étude auprès des exposants. Donc l'idée dans les relations avec les parties prenantes est d'étudier donc les visiteurs et les exposants pour savoir comment répondre au mieux à leurs attentes à l'occasion du salon. Et donc, on a par ailleurs aussi organisé un projet de sensibilisation à destination des entreprises du Salon Ever, mais aussi des entreprises monégasques, qui souhaitaient s'associer finalement et soutenir la fédération de la sensibilisation aux véhicules écologiques, aux énergies renouvelables.
L'une des valeurs essentielles de l'IMED, c'est la responsabilité sociétale. On en entend de plus en plus souvent parler, mais tout le monde ne sait pas encore exactement à quoi ça correspond. Comment vous la définiriez ?
Donc, la responsabilité sociétale, finalement, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise, donc des principes de gouvernance éthique, des actions économiques visant la maîtrise énergétique, la réduction des transports, donc aller par exemple vers la mobilité douce, donc était aussi un sujet d'Ever Monaco. Maîtrise énergétique, donc idem pour Ever avec les énergies renouvelables. Du point de vue social, c'est essayer d'avoir une bonne cohésion sociale, d'améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Et puis du point de vue environnemental, réduire son impact énergétique, réduire ses déchets, c'est aussi de moins en produire. Donc on essaie de sensibiliser les entreprises finalement à tous ces grands thèmes. Et puis aussi à replacer le développement durable sur le pilier économique, puisque... Investir finalement dans l'environnement et dans le social aussi permet de gagner de la valeur à l'entreprise. Je pense à une action à laquelle j'ai participé hier soir en partenariat avec la Schema Business School et un site internet Green IT donc, qui parle de la maîtrise énergétique pour l'informatique. Et c'est vrai que là encore, c'est un sujet d'avenir, le Green IT, où on s'aperçoit qu'on peut faire des économies d'énergie finalement à mieux rationaliser ces systèmes d'information, à faire durer ces équipements aussi informatiques qui ont tendance à être jetés tous les 2 ans. Donc c'est aussi de la sensibilisation à avoir sur ce domaine-là. Il y a une société à Monaco qui travaille dans ce domaine et qui aussi peut accompagner les entreprises de manière opérationnelle pour aller dans cette voie.
Donc tout ça pour s'orienter vers un changement durable au niveau des entreprises mais également des institutions.
Alors, les institutions, je dirais qu'elles pilotent aussi leur stratégie de développement durable de leur côté parce qu'elles sont, elles agissent en tant que pays, elles agissent aussi au sein d'un réseau international. Mais l'idée aussi de l'IMED, c'est de relayer les informations et les actions qu'elles entreprennent en principauté de manière à les faire connaître. Donc, par exemple, sur les aides et les incentives pour les véhicules écologiques. Donc, on a fait des informations sur ce genre de choses. Voilà, c'est un relais d'information aussi. Et si elles veulent être accompagnées plus loin en matière de développement durable aussi, on peut le faire.
Vous serez présente sur Monacologie. C'est un événement qui se déroule depuis plusieurs années à Monaco pour la sensibilisation des enfants à l'environnement. Et vous proposerez un jeu qui s'appelle Biologica. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Biologica, c'est un jeu donc, que j'ai conçu l'année dernière, donc avec plusieurs entreprises qui m'ont soutenue dans ce projet. Donc, c'était un map monde où l'idée était de sensibiliser les enfants à la biodiversité et de leur expliquer en fait les espèces qui étaient menacées sur la planète, où est-ce qu'elles vivaient, puis les menaces qui pesaient sur ces espèces. Donc, cette année, le thème de Monacologie devrait être la chimie. Donc, on va travailler plus sur les énergies, donc parler des énergies fossiles, des énergies renouvelables, et essayer de sensibiliser les enfants justement à ces différents types d'énergie, et puis leur montrer l'intérêt finalement d'aller œuvrer vers ces énergies renouvelables.
Et alors, vous avez dû modifier votre jeu en fonction de la thématique?
Donc, disons que le planisphère reste le même, c'est le support de jeu pour Biologica. Et finalement, on a des petits pions en bois qui représentaient les animaux l'année dernière, qui cette année représenteront l'énergie éolienne. Et puis après, anciennement, le charbon, le pétrole, etc.
D'accord. Vous avez choisi de vous quitter sur Florent Pagny avec un titre très peu connu, L'eau. Pourquoi?
Alors, j'ai choisi cette chanson premièrement parce que Florent Pagny, étant musicienne, a une voix extraordinaire à entendre et une voix qui porte des messages. Et l'eau, parce que c'est un des plus grands sujets qui concerne notre humanité. Et sans accès à l'eau, on ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment une des priorités. Ça m'a semblé très important de centrer l'eau au centre de ce live éthique. D'autant qu'il y avait la journée mondiale de l'eau le mois dernier, donc c'est un bon relais d'information.
Merci beaucoup Virginie Lelarge.
Merci à vous.
Qui coule en rivière ne connaît pas le désert. La chaleur, la poussière.